franceinter.fr.
La revue de presse, bonjour Hélène Jouan.
Bonjour Patrick.
Les frappes françaises la semaine dernière en Syrie ont-elles visé spécifiquement des Français engagés aux côtés de l'organisation État islamique? La presse ce matin s'interroge.
La France peut-elle tuer des Français en Syrie? Question sur la légalité et la légitimité d'une telle opération à la une de l'Opinion. Opération également qualifiée par le Figaro de tournant stratégique pour la France. Dans l'Opinion, Jean-Dominique Mercher souligne d'abord que le sujet a plongé hier le gouvernement dans l'embarras. Le matin, c'est un conseiller du Premier ministre qui avance le chiffre de 6 Français tués lors d'un raid aérien le 8 octobre dernier, avant que le ministère de la Défense et le Premier ministre ne rétropédalent pour rester plus flou, en confirmant néanmoins que des Français ont peut-être été tués. Pour Jean-Dominique Mercher, c'est en tout cas la première fois depuis la guerre d'Algérie que la France et son armée sont amenées à tuer des Français dans une opération de guerre, en joignant le pas en quelque sorte à ce que les Américains ont mis en place après le 11 septembre, en développant la notion de combattant ennemi, qu'il soit étranger ou national. Alors la France n'en est pas encore aux assassinats ciblés de ses ressortissants, écrit le journaliste, mais l'affaire mérite néanmoins d'être débattue, dit-il, sur la place publique. Certains brins agacés, Manuel Valls a rétorqué hier « les terroristes n'ont pas de passeport ». Mais Mercher pose la question, tuer un terroriste fut-il français peut être légitime, mais est-ce légal? En droit français, le crime d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, rappelle un juriste, est passible de 10 années de prison, pas de mort. Alors cet avocat s'interroge, si on arrête un terroriste à son retour en France, on le juge? Et s'il est en Syrie, on le tue? Dans son édito de La Voix du Nord, Hervé Fabre balaye lui tous ses questionnements. Il y a aujourd'hui quelques 1800 terroristes en puissance dans cette filière infernale. La France est tout en haut sur la liste noire de Daesh et plus que jamais, dit-il, en état de légitime défense.
Après le double attentat à Ankara le week-end dernier, le gouvernement turc considère désormais le groupe djihadiste État islamique comme le principal suspect.
L'un des deux kamikazes auteurs du carnage, nous dit Libération, pourrait bien être le frère de l'auteur d'un autre attentat suicide, attentat fin juillet, qui avait fait 33 morts déjà parmi des militants de gauche et des Kurdes réunis en meeting. Zoom sur une ville ce matin, la ville dont les deux frères sont originaires, Adıyaman, dans le sud-est de la Turquie, à quelques 150 km de la frontière syrienne. Dans un reportage écrit avant le massacre d'Ankara, le magazine Society nous décrit cette ville, ni turque de Daesh, première ville pourvoyeuse de combattants pour l'État islamique, avec déjà le départ de près de 200 jeunes pour la Syrie. Mais ce que Society raconte, c'est surtout la collusion qui a longtemps régné entre ces petites mains de Daesh et l'État turc. Une mère témoigne, quand elle a vu son fils se radicaliser à la madrassa d'à côté, 3 fois elle est allée le signaler à la police. J'y suis même allée une fois avec lui, dit-elle. Ils l'ont interrogé, mais ils n'ont rien fait, déplore-t-elle. Depuis 3 ans, Ankara est accusée au mieux de fermer les yeux sur les activités des djihadistes à la frontière, au pire de collaborer avec certaines brigades pour contrecarrer la montée en puissance des Kurdes. Double jeu d'Erdogan, mise en lumière dans cette ville où ressurgissent aussi tous les acteurs d'une nébuleuse militaro-nationaliste à tendance mafieuse que les Turcs appelaient autrefois l'État profond et que l'on croyait disparu, qui paraît aujourd'hui un des points d'appui du président turc. Et puis même si cela a moins à voir avec la Turquie qu'avec toutes les politiques sécuritaires ici ou là, je vous conseille un œil sur les manchots de Gors dans Le Monde, daté d'aujourd'hui, c'est indégivrable. Dialogue, nous liquidons le terroriste avant qu'il ne commette l'attentat. Alors question de l'autre, mais quelle preuve alors qu'il s'agit bien d'un terroriste? Réponse, l'attentat n'a pas eu lieu, implacable et absurde.
Les arrestations à Air France hier au petit matin ont fait réagir politiques et syndicalistes. On en trouve des traces dans la presse ce matin.
Cri de colère de 5 personnalités dans l'humanité révoltées par ces arrestations. L'ex-candidat à la présidentielle du NPA, Philippe Poutou, dénonce un délire sur une soi-disant violence inacceptable quand il ne s'agit que de bousculades et de chemises déchirées. Gérard Filoche parle, lui, de la curée des nantis. Quand Julien Bayou, pour les écologistes, en appelle, lui, à Brecht, on parle toujours de la violence d'un fleuve et jamais de la violence des rives qui l'enserrent. Alors, autant de réactions qui ont suscité la colère de Laurent Bouvet, politologue tendance gauche populaire, qui s'insurge dans Slate contre l'ambiguïté des usages de la violence par cette gauche-là. Certes, dit-il, se ranger unilatéralement derrière la direction d'Air France, confère Valls, témoigne d'une coupure tragique avec les réalités sociales d'un pays. Mais se ranger tout aussi unilatéralement derrière une foule prête à la violence déshumanisante témoigne de la même coupure, dit-il. Si la lutte sociale est indispensable, la violence ne peut l'être a priori et par principe. La légitimation de cette violence pose aussi la question de ses limites. Et puis enfin, une telle atteinte aux personnes et un tel ricanement sont-ils plus légitimes lorsqu'ils viennent d'une foule sociale que lorsqu'ils viennent d'une foule nationale, s'interroge-t-il. conclusion en forme de réquisitoire à l'adresse de cette gauche accusée de complaisance. Une telle légitimation n'est qu'une surenchère désespérée face à son inefficacité électorale.
Et voilà, c'est la fin de la revue de presse et donc c'est l'heure de se coucher.
Pas
j'imagine
tout à
que
fait.
c'est pour ça que vous avez mis la musique de Bonne nuit les petits.
Mais oui, vous avez évidemment reconnu le générique de Bonne nuit les petits. Vous vous souvenez sans doute, Patrick, de Pimprenelle et Nicolas qui nous racontaient chaque soir des histoires dans les années 60 et 70 pour les endormir. Eh bien, L'Opinion nous raconte que François Hollande a affublé Najat Vallaud-Belkacem de ce joli surnom de Pimprenelle. Alors pourquoi Pimprenelle ? C'est une collègue, pas tellement charitable, de la ministre de l'Éducation qui explique. L'opération anesthésie de Najat a fonctionné à plein en cette rentrée scolaire, notamment sur la dictée. C'est une allusion, écrit Nathalie Segone, à l'habileté avec laquelle la ministre a su détourner les regards des nouveaux programmes en annonçant une dictée quotidienne. Méthode de l'édredon, Pimprenelle est assurément un compliment dans la bouche du président, conclut la journaliste. Alors, méthode de l'édredon, eh bien, c'est tout le contraire que réclament ce matin deux hommes bien décidés à sortir les Bleus de leur torpeur avant le match contre la Nouvelle-Zélande. Dans Aujourd'hui en France, Le Parisien, le président de Toulon, Mourad Boudjella, leur dit « Pour gagner, il faut avoir la haine ». Il faut que les Néo-Zélandais aient peur, qu'ils voient que les Bleus sont prêts à mourir sur le terrain, rien que ça. Plus mesuré dans l'équipe, Fabien Galthié, le vainqueur des All Blacks en demi-finale de la Coupe du Monde en 99, les appelle à se révolter. C'est le propre du sport de refuser un statut, celui des condamnés. Appelle quand même à la colère, à la méchanceté pour relever le défi. On est loin des rêves et du marchand de sable de Nounours.
Effectivement, merci. C'était Hélène Jouan pour la revue de presse.